Le Club de Tamani.
Le Club de Tamani.
Votre émission de tous les vendredis soirs sur Studio Tamani.
La culture.
Le sport.
La musique.
Les infos.
L'émission qui vous informe, cultive et divertit.
Le Club de Tamani.
Tous les vendredis à 18h15.
Un proverbe africain dit ceci, un homme sans culture est un zèbre sans rayures. Merci pour votre constante fidélité au Club de Tamani, votre programme dédié à la culture malienne. Nous sommes ce soir avec Mohamed Jean-Pierre Tita, historien et ancien responsable de la mission culturelle d'Equidal. Et avec lui, nous allons explorer la culture Touareg. Quelle est l'origine des Touareg? Comment était organisée la société traditionnelle chez les Touareg? Comment sont construites les infrastructures dans leur milieu? Quel est le style vestimentaire de cette ethnie, qu'en est-il de leur gastronomie? Notre guest va apporter des éléments de réponse à toutes ces questions. Je suis Lala Diarra Touré et je présente avec la belle Mariam Maïga. Bonsoir. Mariam Maïdian.
Al-Her. Mais chez les Touareg, non, c'est comme ça qu'on dit, non, Al-Her.
On traduit.
Et si c'est mal dit, Tita est là avec nous, il va nous corriger, c'est ça?
On traduit pour vous, chers auditeurs, ça veut dire bonsoir.
Je vais bien.
Alors, la Songoïdje, comment vas-tu?
Larbo, je vais bien, alhamdoulilah.
Moi aussi, je vais bien. Tu connais mon amour pour la fin de semaine, non?
Ouais. C'est quoi?
C'est le repos, c'est le show.
C'est le week-end.
C'est les balades.
En tout cas, même à l'école, j'adorais vendredi parce que ça annonce 2 jours de repos.
D'accord. Donc, mettons un peu d'ambiance dans ce studio pour le plaisir de nos auditeurs.
Et là, nous allons écouter dans Monzon un titre emblématique qui fait les louanges de ce roi qu'a connu le royaume de Ségou. Il est repris ici par Bassé Koukouyaté et sa femme, Amisako.
Kodu madinyeba makebo ke urupumba kilizongwe
Nganamu, nganamu, fantane manafama kumafo Kodu madinyeba makebo ke urupumba kilizongwe
Écoutez le morceau d'Amonzon sorti en 2011. Ce titre est de leur album Ségou Blue. C'est signé Bassé Koukouyaté et Ami Sako. Mariam, à présent, nous allons avec la revue de la presse.
La revue de la presse.
La revue de la presse est avec nous dans ce studio, Idrissa Sako, pour nous décortiquer l'actualité de la semaine. Idrissa, bonsoir.
Bonsoir Mariam, bonsoir Lala.
Alors Idrissa Sako, qu'est-ce qui a fait l'actualité cette semaine?
Alors, les récentes inondations à Bamako et à l'intérieur du pays, le procès de l'achat de l'avion présidentiel qui se poursuit et la traque des terroristes au nord et au centre du pays ont inspiré cette semaine la presse.
Commençons donc par ces inondations qui ont causé beaucoup de dégâts dans le pays.
Alors commençons avec l'hebdo L'Inter de Bamako qui écrit à sa une: inondation au Mali quand l'eau, source de vie, conduit à la mort. Sur le même temps, l'indicateur du renouveau barre à sa une. Crue record des fleuves au Mali, des montées des eaux historiques et inquiétantes. Hivernage, montée inquiétante des eaux renchérit le quotidien national Le Sort. Selon le confrère, les inondations ont atteint un record cette année au Mali. Le bilan, à la date du 27 septembre 2024, s'élève déjà à 75 morts. Plus de 148 personnes blessées, 250 000 familles touchées par les inondations. Ces informations émanent de la Coordination nationale des gestions des crises et des catastrophes naturelles, précise Les Échos. Ce qui a amené l'informateur à préciser dans ses colonnes que pour soutenir les efforts de secours contre les inondations, le Canada a mis la main à la poche en mettant à la disposition du gouvernement 400 000 dollars canadiens.
Alors Idrissa Sakho, enchaînons avec le procès de l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires qui se poursuit à la cour d'appel de Bamako.
Tout à fait, Lala. Affaire de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. La cour poursuit ses auditions, indique le bi-hebdo Mali Tribune. Procès d'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Des témoins contrôleurs financiers confirment le secret défense du contrat, écrit le Sursaut. Le quotidien Nouvel Horizon, dans sa parution de lundi, remet en cause le rapport 2014 du bureau du vérificateur général qui, selon le confrère, est la source de cet imbroglio judiciaire. En tout cas, pour le nouveau réveil, la cour poursuit ses auditions en attendant des révélations fracassantes par des témoins clés.
Alors, les confrères Idrissa Sakho ont aussi parlé de l'insécurité tant au nord qu'au centre du pays.
Oui, Mariam, un coup d'œil sur les différentes publications suffit pour comprendre que la semaine n'a pas été du tout repos pour l'armée. Sécurité, l'armée annonce des succès à Tine Sakho et Tine Zawaten, écrit le quotidien national Le Sort, citant la direction des informations et des relations publiques de l'armée. Les confrères ont largement repris cette semaine le communiqué des forces armées maliennes qui annonce avoir repoussé avec succès une série d'attaques menées par des groupes terroristes contre le poste de sécurité des Berres ainsi que des tirs d'obus dirigés sur Tombouctou le dimanche 6 octobre 2024. Lala, nous terminons par cette annonce de la Fédération malienne de football reprise par Mali Tribune en ces termes. Liste des aigles, 4 grands retours notoires selon le bi hebdomadaire. Pour le compte des 3e et 4e journées éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football senior Maroc 2025, le sélectionneur des aigles du Mali a dévoilé une liste de 24 joueurs convoqués en vue d'une double confrontation contre la Guinée-Bissau. Pour sa prise en main de l'équipe nationale, Tom Saint-Fit a fait revenir 4 grands absents des dernières listes aigles, conclut l'indicateur du renouveau.
Merci beaucoup Idrissa Sakho pour toutes ces informations et à tout à l'heure pour la version en langue nationale Bamanankan. Et nous partons avec la rubrique éducation aux médias.
Les coulisses de l'info.
Fatoumata Takodio, bonsoir.
Bonsoir Lala.
Alors, comment vas-tu?
Je vais très bien.
Tu vas nous parler de...
Des sources ouvertes.
D'accord.
Aujourd'hui, le développement des technologies de l'information et de la communication TIC a changé la façon dont les services de renseignement, les chercheurs, les experts en sécurité et même souvent les particuliers peuvent collecter les informations grâce aux sources ouvertes.
Qu'est-ce qu'une source ouverte, Fatoumata Kodjo?
Alors, nous allons mettre l'accent sur l'OSINT ou Open Source Intelligence, qui signifie en français renseignement de sources ouvertes. C'est une source d'information accessible à tout le monde et non classifiée, utile dans tous les domaines, notamment économique, social, culturel et politique. D'une manière générale, l'expression désigne un ensemble des pratiques d'investigation et d'analyse visant à dévoiler une information préalablement dissimulée en récoltant des données numériques disponibles en source ouverte.
Alors, Miss Hightech, l'utilisation de ces sources ouvertes est à la portée de tout le monde?
Bien sûr, tout le monde peut avoir accès à ces sources ouvertes. Ce mécanisme est généralement utilisé par les journalistes d'investigation, des magistrats, des chercheurs ou des activistes en fonction de leurs besoins. Le concept de renseignement en source ouverte trouve son origine aux États-Unis. Les sources ouvertes peuvent être alimentées par les médias, les données gouvernementales, Internet, des blogs, des publications en ligne ainsi que d'autres réseaux sociaux. Les méthodes de recherche des sources ouvertes sont devenues complémentaires à des études de terrain réalisées dans le cadre universitaire également. Pour le renseignement en sources ouvertes, la difficulté principale est d'identifier les sources pertinentes et fiables. Elles peuvent remplir des manques et créer des liens qui permettent aux chercheurs de mieux comprendre un renseignement fragmenté ou encore des rumeurs. Ainsi, elles peuvent protéger des sources et des méthodes. Quelquefois, une analyse de renseignements fondée sur des des informations sensibles et classifiées peuvent être confirmées sur la base de rapports de sources ouvertes. Aujourd'hui, plusieurs médias utilisent l'on-site pour faire des recherches de données, la vérification des messages. Ça permet également aux médias d'apporter la preuve sur les informations afin d'assurer leur crédibilité. Il est actuellement intégré au quotidien des journalistes d'investigation. Il s'agit de repérer, collecter, vérifier des documents issus du terrain pour les publier sous forme d'archives dans un espace numérique.
Merci beaucoup Fatoumata Kodjo.
Merci Miss Hightech.
Merci. Au plaisir de te retrouver la semaine prochaine.
Plaisir à Dieu.
Faisons de la place à présent à notre invité culture.
L'invité culture.
Monsieur Mohamed Jean-Pierre Tita, historien, est l'invité du club de Tamani de ce soir. Bonsoir, monsieur Jean-Pierre.
Bonsoir.
Alors, merci d'avoir accepté notre invitation.
Tita, moi je l'appellerai ainsi. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue parmi nous. Pouvez-vous nous dire l'origine des Touaregs?
D'abord, je vais apporter un éclaircissement. Le mot Touareg n'existe pas en Tamashek. Lesquels Tamashek, surtout au Mali, ou le nord du Mali, ce sont des hommes libres. Le mot Tamashek, ça veut dire libre, homme libre. Et où Tamashek, c'est l'homme. Tout Tamashek, c'est la femme. Quel Tamashek, ce sont les Tamashek. Le mot Tamashek, c'est ça l'homme libre. Et on les trouve dans toutes les montagnes du Sahara, et sans rentrer dans les détails. Et puis, le mot Touareg, comme Kado, qu'on désigne les Dorono là. Ils ne se reconnaissent pas, Kado, c'est la pota, c'est un peu...
Mais Touareg, ça veut dire quoi, justement?
Je viens. Mm-hmm. Touareg, c'est un terme arabe qui a beaucoup de significations, entre autres, les oubliés de Dieu, mais surtout, surtout, le guide, celui qui montre le chemin. Et on sait depuis les temps immémoriaux, depuis que le Sahara a commencé à être désertifié, désertique, la traversée est très, très, très difficile. Il faut des guides. Et ces guides, ces gens qui montrent le chemin, ce sont les Keltamashek. Depuis des millénaires, je dirais. Que ce soit de jour ou de nuit, le Sahara n'a aucun secret pour eux. C'est comme toi, Mariam, dans ta chambre, la nuit à 2h du matin, tu sais la place de chaque chose dans ta chambre. Le Tamashek aussi, que ce soit de jour ou de nuit, que ce soit la couleur du sol, que ce soit la position des étoiles, ils s'orientent très facilement. Et donc le mot Touareg, c'est un mot arabe qui signifie le guide qui montre le chemin.
Alors pourquoi on vous appelle également les hommes bleus du désert? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce que tu viens de dire?
Bon, ça c'est le tourisme français, c'est-à-dire les Keltamashek ont l'habitude de porter le litam qui déteint la peau. Comme ils sont de généralement de peau claire, ça déteint la peau pour donner une couleur bleuâtre. Et à distance, on parle des hommes bleus. Ça, c'est un peu le tourisme français, quoi.
D'accord. Donc, on a corrigé, ce n'est plus Touareg, c'est Keltamashek. D'accord. Comment est organisée la société traditionnelle chez les Tamashek?
Bon, la société traditionnelle, elle est hiérarchisée. Et chacun connaît sa place dans cette hiérarchie. Il y a ceux qu'on appelle les nobles, même si d'autres ne sont plus nobles. Il y a ceux qu'on appelle les imrads, les hommes libres, mais qui sont assujettis, qui payent tribut. Il y a les forgerons, inardan. Il y a le clergé, comme je dirais autrement, les marabouts, ça c'est les kelesouk. Il y a ceux qui sont dans la servitude, qu'on appelle les bellas, après je viendrai sur ce mot-là, et clan. Bon, et donc la société est hiérarchisée d'une certaine façon, et chacun connaît sa place. Au-delà de la ville, c'est comme ça que la société est classifiée. Mais avec le modernisme, avec les tendances actuelles, les données changent selon la région.
D'accord. Et chez les Tamashek, comment les mariages se font?
Bon, le mariage, il est libre, hein, parce que la fille ou la femme choisit son mari. Il n'y a pas d'imposition. Le mariage, c'est d'abord la tente. Se marier, c'est avoir une tente. Djerihan, je suis marié, ça veut dire j'ai ma tante. La tante appartient à la fille. La fille, avant d'aller chez son mari, elle vient avec sa tante, que sa maman offre, ou bien que les gens, de toutes les façons, la contribution est de toutes parts. Mais la femme, quand elle vient avec sa tante. Et la dot est fixée par la maman, et cette dot est équivalente ou supérieure à la dot de la maman. Si la maman, c'est un certain montant, la dot ne peut pas être inférieure. Ça peut être égal ou supérieur. Et la dot appartient à la fille. Et comme c'est un milieu pastoral, c'est un milieu d'éleveur, cette dot-là, ça peut être convertible bien sûr en monnaie ou bien en argent. Et je veux dire en bétail. Si c'est 11 chèvres, 20 moutons, on donne directement à la fille. Quand elle rejoint son mari, elle vient avec sa dot, avec ses animaux. Et c'est une raison pour laquelle il n'y a pas de polygamie dans notre milieu. Peut-être en ville, certains, voilà. Sinon, en brousse, ça s'explique. Hein. La femme, elle vient avec sa tante, elle vient avec sa maison. L'homme est un étranger dans sa propre maison, dans sa tente. L'homme est un étranger. Parce que si ça ne va pas, il prend ses chaussures, il part. La tente appartient à la femme.
Vu qu'on parle de mariage, on attend ici assez souvent que c'est quand la femme divorce chez les Tamashek qu'elle a plus de valeur. Est-ce que cela est correct?
Bon, ça dépend des milieux. Hein. Ça dépend des milieux. Il y a des milieux dans lesquels plus la femme est divorcée et elle est remariée, plus elle a de la valeur. Ça, c'est selon certains milieux, ça existe.
Chez les Tamashek.
Chez les Keltamashek.
D'accord. Ouais.
Alors, tu as parlé tout à l'heure, Tita, de l'hiérarchisation de la société. Et entre vous, comment tout est organisé? On sait que vous êtes un peuple nomade. Le Touareg se promène avec sa tante. S'il y a les intempéries, il va s'installer ailleurs. Comment toute cette société-là est organisée?
Bon, d'abord, je reviens, au Tamashek, c'est l'homme libre. Donc le monsieur, il est avec sa tante, avec sa famille, ou bien la femme est avec sa tante, avec son mari, et dans un milieu hostile, un milieu isolé, un milieu ailleurs que la ville. Donc chacun se déplace selon la position climatique, selon qu'il y ait de l'herbe ou qu'il y ait de l'eau, selon que la ville est proche ou éloignée, selon les besoins du mari. C'est le mari qui fixe le lieu de l'habitat. Et la tente, c'est une architecture mobile. C'est quelque chose qu'on déplace à moins de 30 minutes. On plie tous les bagages, on décampe, on va ailleurs. Et selon la disponibilité des pâturages, selon la disponibilité de l'eau, selon autres disponibilités.
Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Jean-Pierre Tita, pour ces éclairages. Nous allons souffler un peu en musique. Tu en dis quoi, Mariam?
Ce ne sera pas du refus.
Alors, je propose cette fois-ci le titre Amidinin de Aratana Nahal Komoktu.
Thank you. fawata ayata naha adita jam wadin miksa anjararatan atin marham taqila maharatiyan
Conseil de la vie sur la méchanceté, le resserrement des liens sociaux et la cohésion sociale. Voilà l'essentiel qui est dit dans cette chanson. Vous pouvez nous développer un peu plus, monsieur Mohamed Tita. Qu'est-ce qu'il dit?
Bon, c'est une chanson qui appelle à la cohésion.
Mm-hmm. On dirait que c'est l'hymne national des Touaregs.
Non, non, c'est pas l'hymne.
Ah, en tout cas, c'est ce que nous on entend.
Il y a plusieurs thèmes développés, mais l'essentiel, c'est la cohésion sociale entre tous les peuples, entre toutes les ethnies.
Quels sont donc les éléments qui permettent de connaître un quel tamashek dès le premier coup d'œil?
La langue.
Mais ça, c'est quand tu parles, dès qu'on voit là.
S'il parle, et même l'accent, quand il parle, l'accent, tu sais que c'est un tamashek. Un tamashek qui va parler bambara, là, on sait que c'est un tamashek, il ne parle pas comme les peuls.
Mais son toi, accent, tu parles bambara et oui, tu parles en fois.
Mais c'est un tamashek. On sent que je ne maîtrise pas la langue bamana et il y a un peu de tamashek dedans.
Et au-delà de la langue
Au-delà de la langue, il y a l'habit qu'on ne porte pas tout le temps d'air parce qu'on intègre la société dans laquelle on se trouve. Mais quand on est chez soi, on porte notre propre tenue.
D'accord.
Quand on est ailleurs, on porte les costumes, les cravates, les grands boubous, les brolans et autres.
D'accord. Mm-hmm. Mais est-ce que, monsieur Mohamed Tita, il y a une différence entre un tamashek et un berbère?
Bon, voilà. Les berbères, c'est comme si je dis, c'est le nom générique.
D'accord.
Si je dis un mouton, ça peut être un bélier, ça peut être une brebis. Donc, les berbères, c'est le nom générique dans lequel il y a les tamashek. Donc, les tamashek sont les morts, c'est une composante des berbères. C'est une partie des berbères. Voilà.
D'accord.
Est-ce qu'il existe des inégalités au sein de la société keltamashek?
Non, aujourd'hui, autrefois, oui. Mais aujourd'hui, tout est à planifier. Tout est aplani. Tout est question de comment on appelle ça, de richesse. Tout est question de richesse. Plus on est riche, plus on change de catégorie. Plus on est pauvre, plus on descend dans l'autre catégorie.
Le statut social aujourd'hui.
Le statut social dépend du statut financier de l'individu.
Mais avant, c'était comment? Est-ce qu'il y avait comme Mariam l'a dit, est-ce qu'il y avait des personnes de classe sociale qui peut-être n'étaient pas admises à la chefferie, par exemple?
Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, les choses sont hiérarchisées, comme je l'avais dit au départ. Il y a les fractions. Il y a la tribu, il y a les fractions. Plusieurs fractions peuvent constituer une tribu. Dans la tribu, donc, il y a plusieurs fractions. Il y a plusieurs types d'individus. Il y a plusieurs types d'ethnies dans la tribu. Donc, c'est ce qui fait la différence.
Mais avant, vous parlez de maintenant ou...
Non, avant. Maintenant tout est aplani. Hein.
Oui, avant, voilà. Vous avez dit qu'il y avait effectivement cette hiérarchisation-là. Mmh. Mais comment c'était?
Quel tamashek c'est?
Il n'y a jamais eu de discrimination?
Non, ce sont les hommes libres. Chacun est libre d'aller là où il veut à condition de respecter certaines règles sociales.
Vous avez parlé de Bella aussi.
Il y a Achak. Bon, si tu veux, je fais la parenthèse.
Oui.
Je vais dire Bellé. Mmh. C'est un nom sans rail. Bellé est un homme libre d'avance. C'est différent de Tam qui est l'esclave. C'est différent de Banya qui est l'esclave. Mais Bellé, c'est un homme libre. C'est un pasteur, c'est-à-dire c'est un éleveur. Il vend son charbon, il vend son bois, il élève ses animaux. Et c'est le premier cousin des Songwe. J'ai pas de Kouroboro.
Ouais, Songwe, il faut dire nous les Maïga. Maïga.
Voilà, les Maïga, par exemple.
Par exemple,
les Maïga sont des cultivateurs. Ce sont les les maîtres du fleuve depuis Djenné jusqu'à Saï, jusqu'à la frontière entre le Nigeria, le Bénin et le Niger. D'ailleurs, le nord du Bénin, c'est le Dendi. Ça, c'est habité par les Songoui. Donc, de Djenné jusqu'au Bénin, on appelle ça l'Isaber. Et les maîtres de ce fleuve-là, ce sont les Songoui. Les Songoui sont avant tout des sorciers. Ce sont les maîtres de la science ésotérique. Et dit-on, toutes les années, de l'autre côté de la ville de Gao, il y a la dune Koima, va écouter. Sur cette dune, tous les sorciers du monde entier se retrouvent et en conciliabule, Koima va écouter qu'est-ce qu'on va raconter. Donc tous les sorciers du monde se retrouvent là-bas. Donc le Songoï, il rentre dans le fleuve ici et il sort à Telabiri à la minute. Ça, ce n'est pas un problème. Donc le cousin de Bella, de Bellé, c'est le Songoï. Le Songoï, quand il a des hôtes, quand la fête approche de Tabaski ou bien de Ramadan, il va voir son Bella, il prend le meilleur mouton qu'il veut ou bien les moutons qu'il veut, il amène ça chez lui. Il n'y a pas de problème. Et le Bella aussi, Belli, il attend quand il y a la récolte du paddy, du riz, parce que les Songoui sont des cultivateurs. Et lui aussi, il amène ses ânes, il insulte tout le monde, il ouvre le magasin, il charge autant de sacs qu'il peut prendre sur ses ânes et il va. Il n'y a pas de problème. Non. Ça, c'est les vrais cousins entre les Songoui et les Belli.
D'accord.
J'ai dit bien Belli.
Alors, Mohamed Tita Jean-Pierre, parlons à présent de gastronomie dans la société Touareg. Le plat.
Le plat, d'abord, je vais préciser que quelque chose. Mm-hmm. Il y a un plat commun avec les Songoui qu'on appelle Alabadja.
Alabadja.
Les Songoui disent que c'est pour eux.
Ah non, c'est pour
les Tamashek disent que c'est pour eux.
C'est pour
mais
nous.
Prends la racine des mots et le badj. C'est quelque chose qui est pétri. C'est une
pâte. Non, je savais donc, que tu allais donc, décortiquer autrement.
Je vais décortiquer.
Alabadja, c'est pour nous.
Non, Alabadja, vous avez emprunté cela au Keltamashek. D'accord. Donc, c'est un repas qui est là, très simple, digeste, avec du riz qu'on cuit à part, du riz blanc, bien sûr. Et de l'autre côté, nous avons une marmite remplie de viande. Quand la viande est bien cuite, on la pile et on met du beurre et on mélange au riz. Et maintenant, la sauce, là, qui est une sauce très légère, c'est avec ça qu'on pétrit le riz et la viande. Ça, c'est à la baja. Et maintenant, on assaisonne du beurre comme on veut. Et il y a Tarfadjarat. Il y a Tarfadjarat qui est la panse, l'estomac du mouton ou de la chèvre.
Oui, c'est vrai.
Et maintenant, on lave proprement. Mm-hmm. On met tous les boyaux dedans. Et auparavant, il y a des pierres qui ne sont pas pointues, là, qui sont bien lisses, qui sont chauffées à côté et sont mises dans la panse. Et ça devient une cocotte minute. Donc, on tient l'extrémité de la panse et on remue la panse avec les pierres bien chauffées. Et ce sont ces pierres-là qui vont cuire tous les boyaux qui sont à l'intérieur, y compris la peau même, y compris la panse même. Et quand c'est bien cuit, à ce moment, on découpe, on mange tout.
D'accord.
Et le sérum, c'est le liquide, l'intrait, le liquide issu de cette panse-là. Ça, c'est multivitaminé.
Ça soigne?
J'ai dit multivitaminé. les gens qui sont anémiés, quand ils prennent ça, ils se reconstituent immédiatement.
D'accord. Ouais. Il a parlé des tentes. Mm-hmm. L'architecture, ça se limite aux tentes?
Bon, d'abord, le Tamashek est un homme libre. Il est mobile, la tente est mobile. C'est une tente soit en peau, soit en toile, selon les moyens. Et la tente, si tu prends la tente, en peau, par exemple. La partie extérieure, elle est lisse. On enduit ça de la graisse végétale et la pluie ne traverse pas. Et la forme aérodynamique de la tente fait que quand il pleut, l'eau s'écoule aisément sur tous les côtés. Et à l'intérieur, sous la tente, il y a des filaments de cuir qui aèrent quand il y a un peu de vent. Et puis aussi, on enduit ça d'ocre qui est un isolant thermique. L'ocre, la terre rouge, là, comme la latérite, là, c'est un isolant thermique. Et la tente aussi s'ouvre selon la direction du vent et à l'intérieur, c'est permanemment aéré. Il y a un paravent très joli. D'ailleurs, je rappelle aussi que tous les objets keltamashek utilitaires sont d'abord esthétiques. Si je prends ton Inefad, en principe, on voit que la partie belle...
L'Inefad, c'est quoi pour nous,
c'est
les
ça,
acteurs
là.
C'est la parure, là.
Voilà, c'est...
Qu'on porte
au cou avec plusieurs pochettes.
Pochettes dedans.
Voilà, et les pochettes, chaque pochette a son rôle. Il y a le tabac, il y a l'argent, il y a le matériel de petite chirurgie, il y a... Voilà, c'est la caserne d'Ali Baba, il y a tout dedans. Et même le maquillage, il y a des miroirs, il y a tous les produits de maquillage de la femme, tout est dedans. On appelle ça télélite, autrement aussi télélite. Et Nefad, généralement, c'est l'homme, télélite, c'est pour la femme.
Alors là, bon. Est-ce que tu sais que Tita, c'est un excellent peintre aussi?
Oh, ça, c'est autre chose, on passe.
Maintenant, on a l'habitude de voir, très sérieusement, on a l'habitude de voir tes œuvres. Par exemple, à Bamako, les gens qui ne savent pas, en passant tous les jours sur la voie de l'hippodrome, tu as un dessin bien fait, bien affiché sur la route. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu l'esthétique? Parce qu'on voit au-delà de ça, les Touaregs, même les dessins que vous faites, est-ce que ça a quelque chose avec l'écriture Touareg ou ça raconte une histoire?
Bon, si tu parles de l'écriture de Keltamashek, le Tifinagh, c'est une écriture qui existe du Yémen jusqu'aux îles Canaries, en passant par l'Égypte, par toutes les grandes montagnes du Sahara, le Faisan, le Tibesti, toutes les grandes montagnes, l'Adrar, le Hogar, l'Ayer, partout, dans toutes les montagnes, il y a cette écriture Tifinagh. C'est multimillénaire, d'aucuns disent que ça date de 6000 avant Jésus-Christ, d'autres disent 4000 avant Jésus-Christ. Ce qui est sûr, cette écriture Tifinagh même se retrouve sur les momies des Égyptiens, donc ça date de plus de 3000 ans. Et il se trouve que cette écriture est encore utilisée de nos jours, nous l'utilisons aujourd'hui, même si ce n'est pas la même écriture d'autrefois, qui a tendance à ne pas être traduisible parce qu'on ne comprend pas certaines lettres dont le phonème ou bien le graphème, on ne sait plus ce que ça veut dire. Et cette écriture existe encore. Ça, c'est le Tifinagh. Donc, le peuple, c'était un peuple de cavaliers au départ. Partout où il y a le cheval dans les montagnes, gravé dans les montagnes, il y a des Tifinagh qui est à côté. Voilà.
D'accord. Pourquoi on dit Kidal Adrar de Ziforas?
Bon, d'abord, il faut savoir que le mot Adrar, ce sont les Français, ça c'est en partie, hein, parce que Adar même, en tamashek, ça veut dire la montagne. Adrar, c'est la montagne en tamashek. Et les Français, quand ils sont arrivés dans l'Adrar, on leur a dit ici c'est l'Adrar. Ils disent, mais en Algérie, il y a l'Adrar. Il y a Adrar en Algérie. En Mauritanie, il y a Adrar. Ils arrivent encore au nord du Mali, là, dans le Soudan français, ils trouvent encore Adrar. Et maintenant, pour faire la différence, les ethnies dominantes qu'on appelle les Ziforas, ils ont ajouté Ziforas. Adrar des Ziforas. Et les Ziforas, ce sont les sept grandes tribus qui habitaient l'Adrar. Ce n'est pas seulement la famille Intala, hein. C'est sept grandes tribus. Il y a les Idnan, les Taratmal, je ne vais pas tout citer, ouais, c'est long. Il y a sept grandes tribus qui constituent la tribu des Ziforas.
Et cette grosse pierre à l'entrée de Kidal,
justement, les lieux historiques.
Qui tient le nom Kidal, peint Kidal là-dessus, il y a quelle histoire derrière et la peinture là-dessus?
Les lieux historiques aussi, de manière générale.
Bon, de manière générale, les lieux historiques. L'Adrar est le plus grand centre de gravure rupestre au Mali. L'Adrar, la montagne, ça fait 151 000 km². L'Adrar, la montagne seulement. Hein. La région fait 260 000 km². C'est plus grand que la Guinée, c'est plus grand que le Burkina. Ça, c'est la région de Kidal. Donc, l'Adrar, c'est cette zone dans laquelle il y a ces gravures. Et l'Adrar, c'est plein d'anciens sites d'occupation, comme Essouk, comme Kidal, Talawas et autres. Et n'oublions pas que 10 000 ans avant Jésus-Christ, toute la zone était inondée. Il n'y avait que l'Adrar qui était une sorte d'île dans une sorte de mer intérieure. Et c'est cette île-là qui était habitée. Donc l'eau a diminué 4500 avant Jésus-Christ, 2500 avant Jésus-Christ. Donc l'eau s'est évaporée jusqu'à devenir un désert. Sinon, autrefois, c'est dans l'Adrar qu'il y avait les populations anciennes, les peuls et autres là qui ont migré, quitté l'Adrar et allé ailleurs.
La grosse pierre, l'histoire des rives.
Ah, Kidal. Bon, un jour, comme je suis assez curieux, le journaliste il est souvent très curieux, et j'avais un vélo à l'époque, un VTT, je circule sur des kilomètres alentour de la ville. Je me suis dit, mais pourtant, il y a une pierre là. Dès qu'on la dépasse, voici la ville de Kidal. Kidal, c'est la montagne, pour ceux qui ne le savent pas. Ce n'est pas comme Tombouctou chez toi où c'est les dunes de sable. Chez moi, c'est la montagne. Et arrivé à cette pierre,
d'accord,
dès que tu contournes la pierre, voici la ville en bas. En dessous, tu as la ville qui s'étale. Mais avant cette pierre-là, on ne voit pas la ville. J'ai trouvé l'idée d'écrire le mot Kidal. Et en tamashek, Tifinagh, et en français, en latin. Donc j'ai écrit Kidal. Et à côté aussi, j'ai mis des objets en voie de disparition, comme Asear, comme Khoumessa. Il y a la grande pierre sur laquelle même j'ai dessiné Khoumessa. Cette pierre même porte le nom de Khoumessa finalement.
Alors, chers auditeurs, si vous ne savez pas, Mohamed Jean-Pierre Tita, c'est lui qui est à l'origine de ce dessin et cette image que nous partageons d'ailleurs tous sur les réseaux sociaux, la pierre avec le nom Kidal écrit en écriture Touareg et également en français. Et ça a été repeint plusieurs fois d'ailleurs.
Écriture Tamashek.
D'accord. Et pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, vous écoutez le Club de Tamani, l'émission culture sur Studio Tamani. Une fois de plus, merci Monsieur Mohamed Jean-Pierre Tita pour toutes ces réponses. Mais vous restez avec nous car l'émission n'est pas finie.
Effectivement, nous allons maintenant recevoir notre sportif maison. Il fait du sport quand même au sein du studio parce que lui, là, il vient en jean, chemise, au lieu de venir en tenue de sport.
Il est swagué. Khalifa, bonsoir.
Bonsoir Lala, bonsoir à tous nos auditeurs.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir concernant l'actualité sportive?
Les Aigles vont jouer tout à l'heure contre la Guinée-Bissau au stade du 26 mars dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, le tirage au sort des éliminatoires du CHAN 2024 et on va parler du cyclisme également.
Les Aigles du Mali affrontent dans quelques minutes, comme tu viens de le dire, leurs homologues de la Guinée-Bissau au stade du 26 mars.
Oui, après deux premières journées pleines de rebondissement, le Mali et la Guinée-Bissau se rencontrent pour la troisième journée de ces éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Vous l'avez dit, c'est à 19h pile le coup d'envoi de ce match important pour le sélectionneur Tom Saint-Fit et ses protégés. Vous l'aurez compris, l'enjeu de cette rencontre est crucial pour les deux sélections. Mais les amoureux du football malien espèrent à une bonne opération de l'équipe nationale. Ensuite, les nôtres feront le déplacement à Bissau le 14 octobre pour le match retour à 16h lors de la quatrième journée. Il faut noter qu'après deux journées dans le groupe I, le Mali est deuxième derrière le Mozambique, mais avec le même nombre de points, c'est-à-dire 4 points.
Et Khalifa, le Mali connaît désormais son adversaire pour jouer les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. La CAF a effectué cette semaine le tirage au sort au Caire en Égypte.
Exempté du premier tour, le Mali sera opposé à la Mauritanie au deuxième tour. L'allée du match est prévue à Nouakchott et le retour à Bamako au mois de décembre. Le vainqueur se qualifiera pour la phase finale. Au total, 40 nations participeront à ces qualifications pour la 8e édition du CHAN. La phase finale se déroulera du 1er au 28 février 2025. Les pays hôtes de cette compétition sont le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Mais ces pays étant qualifiés automatiquement déjà vont participer également aux qualifications. A noter que ce prestigieux tournoi est réservé aux joueurs évoluant aux championnats nationaux.
Le Mali est également présent dans toutes les catégories lors du championnat d'Afrique de cyclisme 2024 qui se déroule du côté du Kenya.
Le pays participe cette année avec 7 coureurs dans les différentes catégories. Chez les élites, c'est le capitaine Yaya Diallo et le tout nouveau champion 2024 Moussa Togola qui défendront les couleurs nationales en course en ligne. Chez les U23, ils seront 4 aigles espoirs en lice. Il s'agit de Tiemoro Diamtene, Issa Kone, Draman Kouma et Sita Kone. Du côté des juniors, c'est Fidel Cissé qui représentera le Mali. Les 7 cyclistes maliens sont arrivés au Kenya le mercredi dernier. La compétition démarre ce samedi 12 octobre 2024. C'est tout pour aujourd'hui.
Merci beaucoup, Khalifa.
Merci à toi, Khalifa. J'espère que tu seras au stade au moins pour suivre la deuxième partie parce que d'ici ton arrivée, la mi-temps, la première période va prendre fin. Nous allons t'accompagner en musique également. Nous
merci
partons
chaîne,
cette toi, fois-ci à Mopti pour écouter le morceau Ambo Day.
Thank you.
Dejo, un titre chanté lors de la Biennale artistique et culturelle de 1978 par la troupe régionale de Mopti. À l'instant, sur les platines de Sirundao, c'est aussi la chanson dédiée au roi de Kunari. Et justement, nous allons accueillir à présent les Sonikés qui parlent peul. Idrissa Sako.
Djamwali.
La
La revue de la presse.
Oui, madame, on est où là? On est Bachita ou la Gwen?
Bachita, donc la revue de la presse en langue bamanankan. Amena kuma, kuna foni dila ouye, mounou foni ndoko kuyin konana la, mouni mouni bibulu.
Aywa, madame, ni ndoko konana, kuna foni dila ouche, nou nda feminga krengrena ou de yeji et chene minke bamako, ani jamana fantan nani bela jelena. Au kofé, jamana nyema ka panguru kiriko mimbe sena, fokata se farnyavale keba ouye, ulika jo mige jamana koreyan fana, chamancha yan fanfe.
Aywa, Idrissa Sako, madame, ni ni diye ou ngatali minke no kira sababu ye ka cheni bare do mo kuna mali fantan nani bela jelena
o kuma de konana inter de bamako alias be ko ji wala ngatali minke mali konana ko mai hakli jaga bo ka fo ji ale de nani nyana ma yenga no la banke ra mausa ta we nyini galiye o chokele na indicateur du renouveau ale fana jira ka fo nyina njiko atemana danganga jamana konana na fo mo be joro e wa samia wala ngatali ko jugu esoro ka fo la o kira sabu ye ka cheni bare ke jamana konana ka beni septembre ko tle mo ani wulon vlay ko ji kira sabu ye ka ma bi wulon ani duru hake ude bone unina makeme ani mabina nini shege hake ulubanana mabakeme flani batan hake ulubela jele tonyona jika warangatulife nukuna foni mbela jele fana sementera ekofe wode yato informateri ajira kafo bibina wasaka malideme akawilika jola kaninkololo kumbe kukanada kawu uwe mbanyumange ya doke noye ka uka wari dolara kanadien o bakeme nani hake di malima
kuna funu kumara kosobe jamana nyamaka pankuru saniko kirika
okela dre mariam jamana nyamaka panguru akungo kibaru na akiriko obesena ninye bi ebdo mali tribune ka lasilie ayajira ka fo jamana nyamaka ni panguru koi fokata se sorasuka minankoma wakosi kembe ka shere baf la makono munu nyajira ka fo ko gundoba akola ina fo sirse yo prepare la tike chuka mina quotidien mimbe vele ko nouvelle horizon ale ajira akaboko mingara ndenente menena ka fo ni nkoi mbela jele jubora femina odi vérificateur général ka dantigel sibe min kala 2014 konana ko rena ni nyamini ni shuruba nyami mbela jele kirin ko kibarola nga nouveau réveil koni ala jira ka fo amana ke chugo chugo critique la ulube la menuna wa akachala kuma werebu na fo sherobu
aiwa Idrissa Sako amini ndoko kun kuna fonia ni ndatu ni ngolo masiri tabau ye no lukembe ka tada ame domine ko bi jafari wale mroka
o la la niye kuna fo ni 17 nun kelenge na bela jele la je iba famia ka fo dwa kun temene amano ga chugo shila anga ngolo masiri tabau bulala Oria to feminye wa quotidien national le sorie alia jira kafo larame konie aye wulika joke minun sababa benatine sako ani tenza wa ten aya jira fana kafo wa dwa fu ngona na communiquer mini surasu uya a jense uya jira kafo surasu konie wulika jo fenfe ke jamana akoron fela la krengena berian fanfe a bela jele bena sababa ma sabu ye dangari farnya wale kebawla ani farnya wale kebaw ye wulika jo mifana ke kanyisi tombutu ma surako okumbe kara kari temene na no ben octobre kalutle war waroma lala amben ni kunche ni wa farkulo nyana je kuma kibare ni federation malien de football aleka kubaria kibare mi ni mali tribune ya la sem roma ya jira ka fo sama ta sege u to ko nana se banani lu segna kana don uchela bi ebdo ko ni ya jira ka fo femnye wa cheboy min jonjon kanga ke natle sabana natle nanan kanga ke wa nabe talike maroko 2025 kuma kibare wala mali sama ta sege uka mamwani nani ulutro yera ulu debina dankari guinée bissau la chinefla o femenye équipe nationale resa de kramo no Thompson Fitier ale konye mau wele bla manani ma munun kunte korole nulu segra kana inafo indicateur de nouveau au préplatique chukamena
eniche Idrissa Sanko ikani wala la linu nula
abenche akame dwa kungere
ni alama nga janya jana Mariam, le temps imparti est presque fini mais nous allons quand même donner la parole à notre invité pour conclure cette émission.
Ce que j'aimerais ajouter, c'est que la jeunesse actuellement, particulièrement les Maliens, ne se connaissent pas. Les jeunes ne se connaissent pas, les Maliens ne se connaissent pas. Des émissions comme ça permettent aux jeunes de se connaître les uns les autres. Tu ne peux pas aimer quelqu'un, tu ne peux pas apprécier quelqu'un si tu ne le fréquentes pas, si tu ne le connais pas. Donc, c'est une très bonne chose de parler de culture. Et surtout qu'au Mali aujourd'hui, la culture de la lecture n'existe plus. Les gens ne lisent plus. Et non seulement les gens ne lisent plus, mais de plus en plus, chacun est collé à son smartphone. Tu rentres dans la famille, tu trouves le père à son téléphone, la maman à son téléphone. Les enfants sont de l'autre côté avec leur téléphone. Donc, il n'y a pas de créneau pour les jeunes de connaître leur passé, de connaître leur culture. Ça, c'est une très bonne émission qui permet aux Maliens de se connaître les uns les autres.
Merci beaucoup. Comme on l'a dit, la meilleure des connaissances est celle de soi. C'est ainsi que s'achève le Club de Tamani de ce jour. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci à toute l'équipe de réalisation. Mariam,
voilà.
Merci, ce fut un plaisir.
Ce fut un plaisir également de partager ce plateau avec toi ainsi qu'à nos invités et collègues.
Alors, vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Studio Tamani. Terundo a assuré la mise en onde. Cette pensée pour vous souhaiter un bon week-end. Si vous vous trompez de train, descendez à la première gare. Plus vous mettez de temps à descendre, plus le voyage retour coûtera cher. Bon week-end à tous et à vendredi prochain.